Et notre invité ce matin dans le 8:30, Jacques Despieds, bonjour.
Bonjour madame.
Maire de Man depuis 36 ans, président de la communauté de communes Haute-Provence Pays de Bannon, également président du centre de gestion des Alpes d'Haute-Provence, on y reviendra bien sûr sur ce dernier poste. Tout d'abord, on se souvient, Jacques Despieds, que vous avez un passé d'homme de droite chez les Républicains, puis candidat d'hiver droite aussi au sénatorial de 2014. Aujourd'hui, votre curseur politique avec tout ce qui s'est passé ces derniers mois, il se situe où ?
Alors, il y a eu une double erreur. Oui, c'est vrai qu'on a voulu absolument au sénatorial me classer en divers droite, sans me demander mon avis. Et chaque fois qu'on me l'a demandé, ou quand mon frère me l'ont demandé, j'ai tout répondu, je suis avant tout de Man. Donc, c'est un parti politique qui me convient parfaitement. Mais je n'ai pas été membre d'autre parti. J'ai gardé, bien entendu, j'ai souvent été classé à droite, parce que j'ai soutenu plus par sentiment, par conviction, lorsqu'il s'agit des hommes de qualité, j'ai soutenu par exemple le dernier sénateur qui s'est présenté, Jean-Yves Rousse, parce que j'ai trouvé qu'il avait bien fait son travail.
Divers gauche.
Au présidentiel, oui, mais ça ne me dérange pas, c'est l'homme qui compte et ce qu'il fait pour ce territoire, pour nos communes rurales. Au présidentiel, c'est vrai aussi, j'ai soutenu Bruno Le Maire, avec qui j'ai beaucoup d'amitié, à cet égard de qui j'ai beaucoup d'amitié, non pas que j'approuvais pleinement son programme, mais l'affection me fait prendre des fois des prises de position tout à fait particulières. Voilà comment je réagis.
Et pour les législatives ?
Alors, pour les législatives, eh bien, moi j'avais soutenu fortement Christophe Cassaner, que je trouvais qui avait fait un bon boulot en tant que ministre de l'Intérieur, pour notre département, tout au moins, je n'ai pas d'appréciation à porter sur d'autres, au niveau national, mais pour le département, il avait fait un travail énorme en connaissance, en recherche de financement, et sans regarder l'étiquette politique, ce qui m'intéresse beaucoup aussi. Donc, j'ai soutenu fortement aussi la candidature de Christophe Cassaner.
Mais en tout cas, aux dernières législatives.
Et qui n'est pas de droite.
Et oui. qui n'est pas de droite.
Aux dernières législatives.
Et aux dernières législatives, exactement. Comment vous qualifiez d'ailleurs aujourd'hui la boussole politique dans le département ? Jusque-là, le département est détenu par la gauche, puis désormais entre les mains d'Éliane Bareil, une femme de droite. Des députés aujourd'hui, Union des droites et Rassemblement national. Je vous repose donc cette question. Qui avez-vous soutenu pour les législatives, les dernières législatives de 2024 ? Et aujourd'hui, où, selon vous, se situe la boussole politique dans le département ?
Oh, la boussole tourne un peu dans le vide. Hein. Bon, alors il ne faut pas oublier que certaines personnalités dites aujourd'hui d'un parti d'extrême droite ont un propre capital de sympathie. C'est le cas de Christian Gérard, qui est connu, qui est un homme plutôt de droite et pas d'extrême droite d'ailleurs. Sophie Vaginet, c'est la même chose. C'est des gens qui ont été toujours à droite et encore une fois qui ont un capital de sympathie et de confiance probablement. Alors, je connais beaucoup mieux Christian Gérard parce que c'est un ami de jeunesse, on a joué au foot ensemble. Ce n'est pas quelqu'un qui représente l'extrême droite tel qu'on le conçoit.
Mais alors, il s'est
perdu.
Il
a bénéficié d'un capital. Ou on l'a perdu plutôt, à mon sens. Je ne l'ai pas soutenu, d'abord parce qu'il n'était pas dans cet arrondissement, il est ailleurs. Mais c'est quelqu'un qui a un bon fond et qui ne m'inspire pas méfiance. Voilà.
Et Sophie Vaginet-Ricourt ?
Alors, je la connais plus superficiellement en tant qu'élue, maire de Barcelonnette. C'est quelqu'un qui a été, à un moment donné, porté au pinacle par la droite, puis qui a été plus ou moins lâché. Et elle s'est rabattue sur ce parti d'extrême droite ou de droite, comme on veut. Je n'ai pas d'appréciation défavorable ou favorable, je la connais que comme ça. J'ai des relations de sympathie avec elle, que je ne redis pas d'ailleurs.
Mais vous êtes en train de dire au final qu'il y a un peu de calcul politique finalement à faire partie ou à se présenter sous telle ou telle étiquette.
Vous savez, l'image, comme je suis pas jeune en politique ou dans cette politique, c'est pour ça que je m'en tiens un peu loin, il y a toujours des calculs. Et d'ailleurs, c'est pire au niveau national. Aujourd'hui, l'intérêt national disparaît totalement. Regardez ce qui se passe à l'Assemblée nationale, regardez les réactions que cela suscite chez nos concitoyens. Je vois pas mal de gens lors de mes permanences. Il y a un véritable ras-le-bol et un dégoût aujourd'hui, et c'est regrettable. Vous savez, on nous dit, l'autre jour j'ai repris quelqu'un, ils sont incapables de s'entendre. Mais bien entendu, ils s'entendent. Regardez lorsqu'il s'est agi au mois de février dernier d'augmenter les indemnités de représentation, 300 euros. Il y a eu quasiment l'unanimité, LFI. C'est absolu, ce qui n'empêche pas, malgré cette attitude, de percevoir ces 300 euros supplémentaires.
Oui, ce que vous voulez dire, c'est qu'on arrive à s'entendre sur un intérêt personnel, on arrivera à s'entendre, un intérêt général, c'est plus compliqué.
ça. Voilà, vous avez tout deviné. Voilà, c'est le sentiment que j'en retire et que doivent percevoir également l'ensemble de nos concitoyens.
Et donc, je vous repose cette question aujourd'hui. Où se situe votre boussole politique ?
Je suis comme Diogène, avec sa lanterne, je cherche un homme honnête et capable.
Alors bon, cherchons un petit peu plus loin, si vous le voulez bien, Jacques Despiez. Je disais, vous êtes président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-de-Provence. Oui. Mmh. C'est un outil, hein, un outil pour gérer les agents publics territoriaux, les fonctionnaires. On a souvent entendu que dans les collectivités territoriales, il y avait des doublons. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est l'une de vos missions ?
Alors, le Centre de gestion n'a pas vocation à diriger les collectivités. Sa mission consiste à s'occuper des concours, des examens, de la carrière des agents, du suivi médical, voire des compétences facultatives comme les archives ou la paie du personnel. Nous avons de nombreuses petites communes qui préfèrent confier plutôt le soin au centre de gestion d'effectuer le paiement des salaires des agents plutôt que de prendre un programme ou pour différentes raisons. Bref. Donc, nous n'avons pas vocation à voir s'il y a des doublons. S'il y a des doublons, ils se situent beaucoup plus dans les grandes collectivités que dans les petites. Parce que tout simplement, les petites collectivités rurales, pour simplifier, ont été mises à contribution fortement. D'abord parce que les dotations sont deux fois moins élevées que par habitant que dans une grande ville. Et donc, ça induit de faire des économies. Ce n'est pas le cas lorsqu'on fait le bilan dans les zones urbaines des grandes métropoles, on s'aperçoit que les frais de personnel et leur nombre progressent d'égale manière entre la grande commune, qui est le leader, et la métropole. Donc, effectivement, mécaniquement, chaque fois, on crée un étage supplémentaire dans la pyramide des emplois, et ça accroît les dépenses. C'est un phénomène qui a frappé la plupart des métropoles. Oui.
Qu'auriez-vous répondu en septembre dernier à Bruno Le Maire, ministre démissionnaire des Finances, quand il disait, quand il reprochait plutôt l'augmentation extrêmement rapide des dépenses des collectivités qui aurait justifié une partie du déficit public actuel ?
Je lui ai répondu d'abord que l'État, c'est lui qui a décidé d'augmenter l'indice des salaires des agents, ce qui est une très bonne chose. C'est que l'État a aussi décidé aux collectivités d'apporter une dotation financière supplémentaire aux agents pour le pouvoir d'achat. Et puis, surtout, l'État n'a de cesse de transférer des charges en oubliant de transférer les moyens. Quelques exemples. Vous faites aujourd'hui un plan local d'urbanisme, c'est la collectivité qui paie, alors qu'à l'époque, c'était l'État. Vous voulez instruire les permis de construire, c'est plus l'État qui les instruit, c'est les collectivités. Et vous payez. Si vous lancez des opérations de GEMAPI, de protection contre les inondations, l'État à la fois limite les capacités financières alors que ça va exiger des sommes énormes, mais il n'apporte plus aucune contribution. L'État finalement progressivement se décharge, se déleste, transfère ses charges et les collectivités doivent essayer de réunir les moyens pour y parvenir. Une seule indication précise à ce sujet, dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, je passe le bilan sur les Hautes-Alpes, nous avons près de 18% des communes qui aujourd'hui sont en rupture des parts de net. En rupture des parts de net. C'est-à-dire
ce qui veut dire
qu'elles n'ont plus la capacité d'investir. Elles ne peuvent plus investir. Et certaines même ont une épargne brute qui pose problème, c'est-à-dire que ça les met en difficulté pour rembourser le capital de l'emprunt. Tout simplement, ce n'est pas de la mauvaise gestion de mes collègues, c'est que les charges ont fortement augmenté. Parce qu'on est obligé. Et puis, on vous dit, il y a trop de personnel, mais l'État n'a de cesse d'exiger de nouveaux rapports sur l'eau, sur l'assainissement, rapports d'activité, rapports d'orientation budgétaire, rapports désormais sur la caractérisation des déchets. Ça consomme énormément d'argent, de temps aussi. Et tout ça plombe les finances des collectivités. Voilà, la situation, elle est très simple. Les élus ruraux, en général, sont très économes de l'argent public, très économes.
Vous aviez dénoncé il y a quelques mois le transfert obligatoire de la compétence eau et assainissement des communes aux intercommunalités d'ici 2026. Finalement, les derniers gouvernements, et je le précise au pluriel, ont fait marche arrière. De votre côté, du côté de la communauté de communes Haute-Provence, Pays de Bannon, ça n'avait pas été voté. Cela restera donc tel quel ? La gestion restera donc aux communes ?
Alors, c'est un pouvoir propre. Ce qu'il y a de bien, ce qu'ont fait nos législateurs, là, notre législateur, c'est de laisser le libre choix aux collectivités. Libre choix, d'abord, de garder cette compétence ou à transférer, Un, c'est pas inintéressant. Deuxièmement, c'est effectivement de l'exploiter soit en régie, soit par délégation de services publics. Je pense qu'il faut revenir à la base. On a trop centralisé, trop dépouillé les collectivités de compétences. En fait, depuis des années, ce qui attire l'administration centrale, c'est tout simplement un régime fédéral allemand. Eh bien, nous ne sommes pas prêts à supporter ça. Nous avons un état d'esprit différent. Et puis, la multitude des collectivités est une chance pour nos concitoyens qui peuvent avoir à proximité un service public. Ce n'est pas donné à tout le monde.
Du côté de votre Comcom, pour assurer la vie des commerces, vous avez décidé d'acheter certains bâtiments pour installer quel type de commerce notamment ?
Alors, c'est assez vaste. Par exemple, à Rayanne, c'est une boucherie. À Saint-Même, c'est une boulangerie. On a acheté déjà les murs et il n'est pas improbable qu'on achète aussi le fond. À Vacher, c'est un commerce, restaurant, bistrot. Nous avions acheté le fond, nous sommes en train d'acheter les murs. À Simiane, c'est un restaurant, avec logement d'ailleurs. Bon, de partout, on essaie de cristalliser les services essentiels pour les habitants. Et on s'aperçoit que ça marche très très bien. Chaque fois qu'il y a eu défaillance de l'initiative privée, nous sommes intervenus. À Montjustin, il y a aujourd'hui un commerce, alors qu'il n'y a que 50 habitants, et ça vit depuis près de 10 ans. À Vilmus, il n'y avait plus de commerce. On a réalisé un bistrot de pays, et ça fonctionne merveilleusement. Ça a relancé la vie du village. En fait, ça, c'est un peu le centre de gravité du village, finalement, toutes ces structures. Et on tient, bien sûr, à les développer et à répondre, chaque fois que les communes nous sollicitent, à répondre à leurs attentes. Quelquefois, on a soutenu des initiatives comme à Mont-Salier, où là, c'est un restaurant de qualité qui a été fait. Mais on soutient l'initiative financièrement, bien entendu.
D'ailleurs, aujourd'hui, du côté de Man, vous poserez la première pierre de l'îlot Bourgade. Hein. Ce mardi, un bâtiment avec un commerce et 4 logements, coût total 2 millions d'euros, 330 000 euros d'auto-financement. Pour financer aujourd'hui les projets, dans un contexte, on l'a bien compris, qui est tendu économiquement, est-ce que vous comptez revoir les taxes à la hausse ?
Pas du tout. D'abord, les taxes, c'est très limité. L'impôt foncier non bâti représente 10% des ressources du foncier bâti. Et donc aujourd'hui, malheureusement, lorsqu'une collectivité lève l'impôt, accroît la pression fiscale, c'est uniquement un secteur de nos concitoyens qui est frappé. Non, il est hors de question, à mon sens, d'augmenter les impôts. Je verrai avec mes collègues, mais nous n'allons pas sur cette voie. On gère nos finances avec économie, en évitant justement la pression fiscale. Alors le projet que vous annoncez, effectivement, mais lui va produire des revenus. C'est ça l'avantage. Même si on décide d'emprunter les 330 000 euros d'autofinancement nécessaires, les revenus de la construction paieront très largement l'emprunt. Donc on n'est pas mis à l'épreuve.
Une question par rapport à un appel, un marché public qui avait été ouvert en 2023, c'était la réalisation d'un pôle scolaire avec la construction d'un bâtiment neuf d'environ 350 m2, la réhabilitation également du bâtiment d'école primaire actuel, on en est où ?
Alors là, on ne doit pas être loin du permis de construire, demain j'évoquerai le sujet avec le préfet, car là, nous sommes très bien assistés par les services de l'État, très bien assistés, voir comment dans le temps ça peut se financer. Donc, permis de construire, construction du pôle enfant, c'est-à-dire le bâtiment neuf, qui permettra d'accueillir à la fois restaurant scolaire, cuisine, salle de jeu. Et une fois terminé, l'objectif, c'est de délocaliser l'école primaire, les deux classes, de les installer dans le bâtiment neuf, dans la salle de jeu, tout simplement, le temps qu'on procède à la réhabilitation du bâtiment ancien. L'ensemble des deux opérations, c'est 2 millions, 2 millions 2. Bon, restera à trouver les financements. Je pense que vis-à-vis de l'Europe, on pourrait être assez attractif parce qu'on envisage de faire un chauffage, un réseau de chaleur, c'est-à-dire par des copeaux de bois qui chaufferaient tout à la fois les trois bâtiments scolaires, maternels, le pôle enfance, la primaire, mais aussi la salle polyvalente qui n'est pas très loin, à 50 mètres, et pourquoi pas la mairie. Donc c'est un de mes collègues qui gère ça et on va dans ce sens. Voilà. Donc, je pense que c'est une opération qui va exiger des financements, bien entendu, sans revenus, sans retombées. Mais en même temps, comme on gère la dette, on sait qu'à un moment donné, s'il faut emprunter, eh bien, on compensera celle qui est échue par une nouvelle dette sans que cela vienne déséquilibrer nos finances. À titre indicatif, notre épargne brute est très conséquent, bien, et notre épargne nette aussi est parmi les champions par habitant au niveau de l'épargne nette. Donc on n'est pas en période de difficulté. On a eu la chance d'avoir de la richesse qui s'est développée sur la commune et qui continue à se développer. Ça nous permet effectivement de voir l'avenir avec un peu plus de sérénité.
Et justement, cet avenir, vous le voyez en 2026, vous comprenez ma question, forcément vous serez candidat au municipal de 2026.
Bien entendu. Alors, je ne voudrais pas vous faire une réponse de Gascon, tout est possible. Aujourd'hui, je vous dis oui. En fait, dans mon attitude, je fais comme si j'allais rester encore, si je voudrais faire grincer des dents certains, je dirais 3 mandats, ou si j'allais partir. En fait, mon souci, c'est de tout préparer toujours pour que la succession se passe en cas de besoin le mieux possible, avec des dossiers, avec des finances saines, pour que le village, surtout, ne soit pas victime de quoi que ce soit.
Voilà. Tout est possible et tout se prépare, en tout cas, du côté de Man avec le maire également, président de la Comcom Haute-Provence, Pays de Bannon. Merci beaucoup, Jacques Despieds, d'avoir été avec nous ce matin sur Alpe 1.
C'est avec plaisir.